Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la sainte sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bien, chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce jeudi 5 mai 2020. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique, redoutable front anti-sanctions US. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran lance deux navires de guerre. Ansar Allah a attaqué un centre de sécurité du gouvernement démissionnaire de Mansour Hadi. L'Union africaine condamne l'attaque terroriste contre des soldats burundais en Somalie, menée par les Shebab. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le contre-amiral Shahram Irani a annoncé la construction de deux destroyers, Zagros et Dama 22, et leur lancement bientôt. Le commandant de la marine iranienne a affirmé que les destroyers Zagros et Dama 22 sont censés rejoindre le corps opérationnel de la marine. Nous devons effectuer leurs tests complets et transférer les informations collectées au corps industriel et scientifique. Le contre-amiral Shahram Irani, déclarant que jusqu'à présent 82 flottes ont été envoyées en eau libre au cours de ces 13 années, a déclaré « Nous avons poursuivi notre voyage avec la puissance et la confiance en soi ». En regardant vers l'avenir et en gardant un œil attentif sur l'ennemi. Nous avons une présence polyvalente. La lutte contre les pirates fait partie du travail, de même que nous effectuons nos missions commerciales pour lesquelles nous arborons des drapeaux et visitons les pays voisins. Dans une autre partie de son discours, se référant à la nature stratégique de la marine de l'armée iranienne, le contre-amiral Shahram Irani a déclaré La marine de l'armée de la République islamique d'Iran est située à la périphérie de la défense du pays et est stationnée à des milliers de kilomètres des frontières de l'Iran. Cette capacité de mouvement et d'action est l'œuvre des équipements produits à l'intérieur du pays, ce que nous devons aux jeunes savants de l'Iran. Ansar Allah yéménite a lancé mercredi 4 mai une attaque contre un centre de sécurité du gouvernement démissionnaire de Mansour Hadi dans la province de Taïs, dans le sud-ouest du Yémen. Les forces armées yéménites ont utilisé un drone chargé d'explosifs pour cette attaque contre le siège des forces de sécurité pro-Hadi dans l'est de Taïs. Plus de 8 membres de ces forces ont été blessés lors de cette attaque. L'occupation américaine a transporté un convoi de camions-citernes chargés du pétrole syrien volé et du matériel militaire vers sa base à l'aéroport de Kharab al-Jir dans la banlieue d'Al-Yaroubiya à destination de l'Irak via le passage illégal d'Al-Walid. Des sources locales ont indiqué à la correspondante de Sana'a, l'agence de presse officielle syrienne, qu'un convoi de 50 véhicules, dont la plupart sont des camions-citernes chargés du pétrole syrien, et un certain nombre de camions transportant des artilleries et du matériel militaire, accompagnés de 8 blindés des forces d'occupation américaines, s'était dirigé depuis la zone de Tel Amis, dans la banlieue est de Osaka, à l'aéroport de Kharab al-Jir, dans la ville d'Al-Yaroubiya, que l'occupation prend comme une base. Les sources ont souligné que les véhicules s'étaient arrêtés à l'aéroport de Kharab al-Jir pour se diriger ensuite vers le passage illégal d'Al-Walid. Un certain nombre d'hommes armés de la milice des FTS liés à l'occupation américaine ont été tués et blessés dans des attaques séparées contre leurs véhicules et points de contrôle dans la banlieue nord de Degressor. Des sources locales ont indiqué aux correspondants de Sana que des hommes armés inconnus avaient attaqué aux armes automatiques et aux obus RPG, un point militaire de la milice, dans le village de Sajar, au nord de Degressor, faisant des tués et des blessés parmi les éléments de cette milice. Dans le même contexte, des sources locales ont indiqué que des inconnus avaient visé aux armes automatiques un véhicule militaire des FTS dans le village de Raiba Sharia, au nord de Degressor, faisant tuer et deux blessés parmi eux, alors que des inconnus avaient visé avec un engin explosif un autre véhicule des FTS près du village d'Azaba, faisant un élément tué et un autre blessé. Toujours en Syrie, lors d'une réunion tenue dans le sanctuaire d'Abu Zar al-Rifari, dans la zone d'Al-Marj, entre les deux villages occupés de Masada et Majd al-Shams, les Golanais ont indiqué que l'occupation tente par tous les moyens à mettre en œuvre son plan sur les terres agricoles, soulignant qu'après avoir épuisé tous les moyens, les Golanais n'ont de choix que la confrontation sur le terrain pour avorter le projet, quels que soient les sacrifices. Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion, ils ont averti que l'occupation israélienne tente à travers le plan des turbines éoliennes de les expulser de leurs terres pour s'en emparer. Les Golanais ont organisé le vendredi dernier un sit-in à Manfoura, à l'est du village de Baraka, pour rejeter le plan de l'occupant israélien et réclamer à la communauté internationale de mettre fin à ce plan colonial qui vise à les déplacer et qui constitue une transgression des résolutions de la légalité internationale. Le parti au pouvoir en Turquie cherche à faire du retour de réfugiés syriens une grande épopée de nature humaine dont il pourra s'attribuer la gloire. Dans ce drapeau, 50 000 logements construits par la Turquie à Idlib ont été remis aux réfugiés qui avaient regagné leur pays. Le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, s'est rendu illégalement en Syrie pour une cérémonie d'inauguration marquée par le discours en vidéo de Recep Tayyip Erdogan qui a promis le retour volontaire d'un million de réfugiés syriens. Le chef de l'État turc s'est adressé en vidéo à plusieurs centaines de Syriens lors de la cérémonie de remise des clés de milliers de maisonnettes destinées aux réfugiés de retour dans le nord-ouest de la Syrie. En réalité, cette campagne de propagande, qui s'appuie plutôt sur ces 50 000 maisons en briques, dont la construction reste peu coûteuse et très rapide, est censée aider le gouvernement d'Erdogan à apaiser une vague de critiques venue de la part de ses opposants, qui ciblent la présence de 4 millions de réfugiés syriens en Turquie, une question devenue un grand défi pour l'AKP, au niveau politique et social aussi bien qu'au niveau économique. L'armée russe a annoncé mercredi 4 mai qu'elle allait ouvrir un couloir humanitaire de jeudi à samedi pour évacuer les civils de l'usine assiégée d'Azovstal à Mariupol, en Ukraine. Le couloir sera ouvert de 8h à 18h, hors de Moscou, 5h à 15h GMT, pendant 3 jours, a indiqué dans un communiqué le quartier général conjoint de coordination de la Russie pour la réponse humanitaire. Au cours de cette période, les troupes russes et les forces de Donetsk cesseront unilatéralement les hostilités et permettront aux civils de se retirer à la fois vers la Russie et vers les zones contrôlées par l'Ukraine, selon le communiqué. L'Ukraine et le Royaume-Uni ont signé un accord visant à supprimer les droits de douane et les contingents tarifaires entre leurs deux économies, a annoncé mercredi 4 mai l'agence presse Ukrinform, citant le ministère ukrainien de l'économie. L'Ukraine et le Royaume-Uni ont légalement entériné l'abolition des droits de douane et des contingents tarifaires dans leur commerce bilatéral en signant un accord, a déclaré le ministère. Cet accord de commerce préférentiel, qui sera en place pendant 12 mois, permettra de stimuler les exportations de produits à haute valeur ajoutée en provenance d'Ukraine, comme la farine, les céréales, les produits laitiers, la volaille, la purée de tomates, le miel, le maïs, le blé, les jus, les champignons et le sucre. Le mois dernier, l'Union européenne avait déjà décidé d'abolir les droits de douane et les quotas sur les produits industriels et alimentaires ukrainiens. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné l'attaque perpétrée mardi 3 mai par des membres du groupe Al-Shabaab contre une base burundaise de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, dans la région du Moyen Chabélé, au sud-ouest de Mogadiscio. Sans préciser le nombre des victimes, Moussa Faki Mahamat a rendu hommage aux casques bleus burundais qui ont perdu la vie en aidant à ramener la paix et la stabilité en Somalie. Le président de la Commission de l'Union africaine a en outre lancé un appel à la communauté internationale pour accroître son soutien aux services de sécurité somaliens et à la mission ADMIS et relever les défis sécuritaires en Somalie. Mardi matin, les Chebabs ont attaqué un camp burundais de la mission de l'Union africaine en Somalie, faisant plusieurs morts selon plusieurs médias. Des autorités locales ont déclaré à Radio Mogadiscio que de fortes explosions ont frappé la base ADMIS tenue par les troupes burundaises, suivie d'un échange de coups de feu entre les troupes et les extrémistes. Les autorités burundaises n'ont pas encore officiellement réagi. Le président de la Commission de l'Union africaine est également adressé par téléphone au chef de l'État burundais pour lui adresser ses condoléances. Avec près de 5000 hommes, le Burundi est le deuxième pays contributeur aux troupes de l'ATMIS, dont les effectifs représentent près de 20 000 militaires, policiers et civils issus de pays africains. L'ATMIS a formellement remplacé la force de maintien de la paix africaine en Somalie, AMISOM, avec un mandat prolongé fin mars dernier par le Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'à fin 2024 pour stabiliser le pays face à l'insurrection des Chebabs. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Redoutable front anti-sanctions US. Ces dernières années, Israël se dit particulièrement inquiet du développement des relations de l'Iran avec la Russie et la Chine. Dans ce cadre, Tel Aviv fait tout pour tenir les liens de Téhéran avec Moscou et Pékin. Des analystes israéliens estiment que l'accord de coopération sino-iranien de 25 ans neutraliserait efficacement la pression économique américaine contre Téhéran, renforcerait sérieusement la position de négociation de Téhéran et pourrait annoncer les efforts renouvelés des Iraniens pour développer ses activités régionales. Dans un article publié dans le journal Israel Hayom, Dan Sheftan, directeur du Centre des études sur la sécurité nationale à l'Université de Haïfa, a écrit « Alors qu'Israël était occupé par l'imbroglio politique intérieur, entourant les élections à la Knesset de la semaine dernière, une menace stratégique qui pourrait menacer l'existence même d'Israël se développait. Si l'alliance irano-chinoise atteint son plein potentiel, le Moyen-Orient pourrait à nouveau être entraîné dans une nouvelle guerre froide entre superpuissances. Selon lui, une aide chinoise massive à Téhéran pourrait apporter un soutien à l'Iran dans ses tentatives d'imposer son influence à la région dans le cadre d'une autre sorte de guerre froide qui se développe actuellement entre Washington et Pékin. Un tel soutien chinois, ainsi que le ton conciliant du président américain Joe Biden, pourrait constituer le genre de menace stratégique qu'Israël n'a pas vu depuis la guerre de 1973, a estimé Dan Sheftan. Le ministre chinois des Affaires étrangères a signé un accord stratégique de 25 ans avec l'Iran, établi pour la première fois lors de la visite du président chinois Xi Jinping en Iran en 2016, visant à déculper le commerce bilatéral à 400 milliards de dollars en 10 ans. L'accord permet également des exercices militaires conjoints et une coopération militaire à l'avenir. En outre, l'Iran est prêt à fournir à la Chine de grandes quantités de pétrole et de gaz à long terme. L'auteur a ajouté, ce type d'accord sert à neutraliser efficacement la pression économique américaine, renforcer sérieusement la position de négociation de l'Iran et pourrait annoncer un nouvel effort iranien vers l'hégémonie régionale. Le rythme de sa réalisation et ses caractéristiques peuvent influer aussi de manière cruciale sur les relations américano-chinoises. Depuis peu, les relations de la République islamique d'Iran avec la Chine et la Russie sont entrées dans une nouvelle phase. L'événement marquant est l'invitation du président russe Vladimir Poutine au président Ebrahim Raisi pour visiter Moscou au début de 2022 en vue de signer une prolongation d'un accord de coopération de 20 ans signé le 12 mars 2001 à Moscou. Ce nouveau partenariat intervient après la conclusion d'un pacte stratégique de 25 ans avec la Chine dans le cadre de la politique de regard vers l'Est et vers les pays voisins. La consolidation des liens avec les alliés chinois et russes survient donc dans un climat de défiance renforcée de la République islamique d'Iran vis-à-vis de l'Occident et en période de fortes tensions persistantes avec les États-Unis. L'intérêt de la Chine pour l'engagement économique avec l'Iran, malgré la politique de pression maximale de Donald Trump, repose sur plusieurs éléments, dont l'influence de l'Iran en Asie occidentale, l'approvisionnement énergétique et la position géopolitique de l'Iran. Les accords stratégiques de l'Iran avec la Chine et la Russie, l'un après l'autre, visent diamétralement à réduire la dépendance économique et politique vis-à-vis de l'Occident. La concession pour une période de 25 ans du port de Haïfa par le partenaire stratégique des États-Unis à la Chine en septembre dernier et la prolongation du traité de 1971 entre l'Inde et la Russie sont d'autres exemples d'accords stratégiques qui ne sont pas du goût des Américains. La puissance des États-Unis est en déclin. Et dans un avenir proche, nous verrons le transfert du pouvoir de l'Ouest vers l'Est et le renversement de l'ordre américain. De ce fait, le journal Ashar al-Awsat note que l'alliance entre l'Iran, la Chine et la Russie est la plus grande menace de 2022. La signature de l'accord de longue durée est susceptible d'influencer le processus des pourparlers de Vienne. La partie occidentale, voyant l'Iran qui évolue au niveau diplomatique aux côtés de grandes puissances, d'un autre œil.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans son récent discours prononcé à l'occasion de la journée mondiale d'Al-Quds, le secrétaire général du Hezbollah libanais Seyyed Hassan Nasrallah a salué le courage des Palestiniens, surtout des Palestiniens vivant dans les territoires occupés de 1948. Seyyed Hassan Nasrallah qui a salué également ceux de combat auxquels sont livrés les Palestiniens. Dans son discours, Seyyed Hassan Nasrallah a évoqué également l'Iran. Seyyed Hassan Nasrallah a évoqué l'Iran et a souligné que l'Iran avait averti tous les pays qui ont normalisé avec l'entité des sionistes que toute agression israélienne contre l'Iran sera affrontée par une riposte directe contre le site nucléaire israélien basé sur le sol, si vous voulez, de ces pays arabes qui ont normalisé avec l'entité israélienne. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage. On reviendra tout de suite après.
L'avertissement est clair et il est à double sens. Si Israël commet le moindre agissement contre où que ce soit, l'Iran frappera Israël. Et que le régime ne se fasse aucune illusion pendant nos élections. Le Hezbollah est en alerte maximale et prêt à renforcer l'équation de dissuasion, a annoncé Seyyed Hassan Nasrallah. S'exprimant à l'occasion de la journée mondiale de Quds, Seyyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, a déclaré ce vendredi 29 avril que la journée mondiale de Quds est célébrée dans plus de 90 pays et que des millions de personnes dans différentes villes d'Iran et du Yémen sont descendues dans les rues d'une manière inédite, sans manquer de saluer des dizaines de milliers de fidèles à la mosquée Al-Aqsa. Depuis la création de cette entité usurpatrice, ses sponsors, ses maîtres, et le mouvement sioniste ont œuvré pour stabiliser, consolider et protéger cette entité et ont travaillé sur de nombreuses voies, y compris celle de l'oubli. Aujourd'hui, à travers les événements des dernières années et de cette année, nous confirmons que le chemin de l'oubli a échoué, a-t-il ajouté. Ils ont œuvré depuis 1948 sur l'option de la désespérance à l'égard de la restauration de Rhodes et des lieux saints, indique Nasrallah. Aujourd'hui, le peuple palestinien est plus optimiste et plus sûr que jamais que la victoire sera réalisée. La question palestinienne fait partie de notre religion, notre foi, notre dignité. Nous sommes une nation qui n'abandonne pas sa religion et sa dignité, a-t-il précisé, avant d'affirmer que la confrontation militaire a prouvé qu'Israël n'est pas un destin à subir et peut être vaincu. Selon le leader du Hezbollah libanais, les opérations individuelles ont été menées par des Palestiniens, issus de maintes régions et dans des zones géographiques, ce qui porte un message fort, l'acquis le plus important des opérations individuelles est que, contrairement à la vision sioniste, il a été prouvé que la sécurité et l'occupation ne vont pas de pair. Plus loin dans ses propos, Nasrallah a évoqué la normalisation avec l'entité qu'il a vivement condamnée à titre de pire hypocrisie. C'est la pire hypocrisie que de prétendre que la normalisation sert les intérêts du peuple de la Palestine.
Merci, merci infiniment d'avoir choisi cette émission. Le débat pour cette émission, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités. J'ai avec moi au téléphone depuis Toulouse un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Norostine, bonjour à tous vos auditeurs et bien sûr à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, M. de Dortiguier, c'est un juriste français spécialiste des questions internationales, de l'auteur d'un livre appelé « L'axe de l'espérance ». Il s'agit de Maître André Chamy. Maître Chamy, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous pour votre gentillesse et pour votre accueil, ainsi que pour M. Dortiguier.
Merci. Maître Chamy, je viens de lancer le sujet. Comment évaluez-vous le récent discours de Seyyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais, surtout là où il parle en fait de la question iranienne, de la riposte iranienne à une éventuelle agression de la part du régime israélien?
Les menaces israéliennes, ce sont des menaces réelles, c'est-à-dire ce sont des menaces qui continuent d'exister tant que cet État existe. Parce que c'est un État qui est né de l'agression et qui est né de la volonté d'éliminer l'autre. À partir de là, évidemment, soit vous vous défendez, soit vous vous obtempérez et par conséquent vous disparaissez. Et la vision de l'imam Khomeini déjà a été une vision, je dirais, de perspective. Pourquoi ? Parce qu'en créant la journée d'Olkotz, l'imam Khomeini a créé de l'espoir. Parce que cette journée n'est plus une journée de commémoration, c'est devenu une journée de lutte. Je rappelle que les peuples de la région ont un destin, c'est celui de libérer cette ville sainte. Et à partir de là, tous les moyens devaient être mis en place afin de parvenir à cette finalité. Et un axe, j'appelle moi l'axe de l'espoir, est né sur ces fondations-là, c'est-à-dire d'abord libérer les territoires de ces pays-là, si des pays sont occupés par l'entité sioniste, mais au-delà de cela, c'est l'idée de parvenir à libérer la ville sainte des occupants. Et c'est devenu le leitmotiv de chacun d'entre nous et de chaque individu qui appartient à cet axe. L'Iran, c'est le porte-drapeau, le porte-étendard, mais derrière la République islamique d'Iran, il y a d'autres pays, il y a d'autres organisations. Vous avez le Hezbollah, vous avez la Syrie, mais vous avez également les organisations palestiniennes, notamment le Hamas et les djihadistes islamiques, qui ont donné de l'espoir aussi au peuple palestinien, parce que face à l'échec qui a été mené par l'autorité palestinienne qui a préféré soi-disant l'idée d'obtempérer par rapport à la légalité internationale, laquelle légalité a abandonné le peuple palestinien depuis la naissance de l'entité sioniste, cette légalité n'avait aucun sens. Mais malgré cela, ils ont accepté la légalité soi-disant internationale, ils sont parvenus à quoi ? À rien. ils sont calfeutrés dans une espèce de bâtiment qui s'appelle Mokata, et sans aucun pouvoir, ils sont même devenus les agents secrets, si j'ose dire, d'Israël à travers les accords sécuritaires. Ce qui donne de l'espoir aux Palestiniens, ce sont les organisations qui luttent réellement sur le terrain, c'est-à-dire le Hamas et les djihadistes islamiques. Ceux qui ont donné le premier exemple, ce sont les Libanais à travers le Hezbollah, en libérant déjà le territoire libanais et en devenant par naissance, pour ne pas dire à travers leur existence, une menace existentielle pour l'entité sioniste. Ce que l'ensemble des responsables israéliens rappellent, il n'y a aucun État dans le monde qui se lève le matin pour dire « j'ai une menace existentielle », c'est-à-dire une menace de disparition. Le seul pays qui ose le dire aujourd'hui, c'est Israël. C'est responsable au plus haut niveau, que ce soit les responsables de sécurité, que ce soit les responsables politiques ou les responsables militaires, se posent au quotidien cette question par rapport à la menace existentielle, c'est-à-dire une menace de disparition. Pourquoi ? Parce qu'ils sont conscients que leur disparition est devenue une éventualité réelle. Ce n'est plus juste une supposition qui était dans les esprits ou en tout cas dans l'imaginaire. Là, c'est une disparition réelle qui peut survenir à tout moment. Et aujourd'hui, ça dépend que de l'acte de l'espoir qui peut se préparer davantage à cette bataille que j'ai toujours eu l'occasion de dire devient inévitable, pour ne pas dire indispensable. Et les Israéliens le savent et ils essayent de repousser les échéances. Ils essaient de repousser les échéances à travers les attaques de temps à autre à tel ou à tel endroit ou en visant telle ou telle personnalité, mais en réalité, ce sont des petits obstacles, si j'ose dire, mais le grand obstacle, c'est de pouvoir se débarrasser de l'ensemble de l'axe de l'espoir. Mais aujourd'hui, cette question est devenue derrière nous, parce que pour cela, il faut que Israël puisse attaquer d'abord la tête, pour ne pas dire le porte-étendard de l'axe de l'espoir, c'est-à-dire la République islamique d'Iran. Et aujourd'hui, l'Iran est devenu hors de portée d'Israël par rapport à la question existentielle, c'est-à-dire ce que a voulu rappeler Saïd Hassan Nasrallah à travers son discours, c'est d'abord la République islamique d'Iran ripostera, et cette riposte pourra aboutir à anéantir l'entité sioniste, mais derrière ça, chaque membre de l'axe de l'espoir pourra devenir demain le fer de lance pour aboutir à cette grande bataille qui, encore une fois, deviendra inévitable. Et c'est la raison pour laquelle la résistance palestinienne, aujourd'hui, elle parle d'une voix très forte en disant l'ensemble de la région. C'est pour ça qu'on parle du front régional. Et M. Sanoir l'a rappelé il y a quelques jours, un front régional risquerait de se créer le jour où il y aura l'un des membres de cette coalition qui se trouverait attaqué. Et à ce moment-là, l'Israël devra se préparer à une guerre sur une multitude de fronts, et les Israéliens savent qu'ils n'ont pas aujourd'hui la capacité d'y faire face, c'est-à-dire la menace existentielle est réelle et devient plus qu'inévitable pour cette entité. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de solution, raison pour laquelle ils essaient de donner de l'espoir à leur population à travers ces coalitions fictives avec certains pays qui ont voulu collaborer avec eux, notamment à travers les accords d'Abraham. Mais ces accords d'Abraham, c'est qu'une façade, c'est une sorte de gage qui a été donné par les Américains pour donner de l'espoir, en tout cas pour donner un semblant de confiance. Mais cette confiance ne peut exister qu'en faisant disparaître l'axe de l'espoir, alors que cet axe est né pour aboutir à ses objectifs. Et parmi ces objectifs, c'est la disparition de l'entité sioniste. C'est indiscutable.
Monsieur Dorsiguier, vous venez d'entendre l'analyse de Maître Jamy, qui dit que voilà, de cette bataille paraît désormais était inévitable. Et s'agissant de cette bataille, Maître Jamy parlait de l'existence de la constitution même d'un front régional contre le régime israélien, Monsieur Dorsiguier.
Oui, je crois dire que de ce point de vue, les autorités israéliennes ont toujours menti à leur propre peuple, si je puis dire, c'est-à-dire à tous ceux qu'ils ont invités à venir chez eux, en disant qu'ils avaient une patrie assurée, et qu'ils pouvaient, disons, avec plus ou moins d'accommodement, dominer sur place et avoir des traités ou, disons, des complicités, disons, à l'extérieur. Or, ceci est faux, car ce que vient de démontrer Maître Chami, c'est que, disons, le peuple, ce qu'on appelle le peuple palestinien, est un corps qui s'insère dans l'ensemble et de la Syrie et du Liban. C'est ce que disait, je le rappellerai, le congrès de Jéricho en 1947. juste après, en 1948, pardon, juste après la proclamation de l'entité sioniste par Ben Gurion. Il a dit que nous faisions partie, nous les Palestiniens, de la Syrie méridionale. C'est-à-dire qu'on a oublié et fait oublier à l'opinion publique que Israël était en train de, non seulement d'oppresser certaines populations arabes ou autres, mais qu'en réalité, il occupait une série d'autres États qu'il avait, par des moyens de, après la guerre de 14, disons, de protectorat ou autre, voyez-vous, divisé en Liban, en Syrie, etc. Or, aujourd'hui, la réalité populaire, la réalité vraie, disons, reprend le dessus, voyez. Et il est certain, donc, qu'Israël était, comme tous les mensonges, quelque chose qui ne pouvait qu'être que effacé par le temps, voyez. Alors, il y a, bien sûr, cet armement atomique d'Israël, bien sûr, qui a été dénoncé par Mardoquet ou Mordecai, Benounou, vous savez, qui est un ingénieur atomiste israélien marocain d'origine, bon, qui a dénoncé donc cet armement formidable qu'a Israël, mais cet armement lui sera d'aucune utilité, car en réalité, dès qu'il l'utilisera, évidemment, et il se heurtera à la riposte, bien sûr, de l'Iran et, disons, d'une coalition unifiée contre lui. Voyez-vous, la force politique, elle est plus importante que la force des armes.
Monsieur d'Ortiguier, en fait, cet Hassan Nasrallah affirme dans son discours que les conditions sont désormais garanties pour la riposte iranienne à toute agression israélienne.
En effet, il a raison. Les conditions sont réunies, bien sûr. Et l'État d'Israël ne peut pas se permettre une riposte iranienne. Mais bon, ça, évidemment, c'est là qu'il est fragilisé et qu'on a toujours dit que finalement l'État d'Israël, si je puis dire, je le dis sans aucune polémique, uniquement par observation objective, c'est une escroquerie envers d'abord en premier les colons israéliens qui sont invités à venir. Voyez-vous, c'est quelque chose qui n'est pas durable. C'est un facteur d'agitation. Voyez-vous, ce n'est pas un facteur au sens propre national. Voyez-vous, c'est un État artificiel. Comme tout ce qui est artificiel, ça profite à ceux qui sont à l'extérieur d'Israël et pas à ceux qui sont à l'intérieur d'Israël.
Maître Chami, en fait, dans son discours, s'agissant toujours de cette bataille à laquelle on venait de faire allusion, cet Hassan Nasrallah a donné également un exemple concret de cette attaque iranienne contre le site militaire du Mossad à Erbil, dans la région du Kurdistan irakien, qui avait été visé avec 12 missiles de précision. Et cet Hassan Nasrallah dit que désormais, l'Iran va riposter directement à toute agression contre sa présence. Maître Chami, est-ce que là, cet Hassan Nasrallah fait allusion aux agressions israéliennes contre la Syrie, que désormais, en fait, il va y avoir en fait des ripostes directes aux agressions israéliennes contre la Syrie, Maître Chami?
Moi, j'ai envie de dire, cet Hassan Nasrallah a pris le dernier exemple, mais en réalité, l'exemple le plus flagrant, c'est l'attaque de Ayn al-Assad. Parce que, au lieu de, comment on dit, au lieu de s'en prendre aux gendarmes, on s'en est pris à l'état-major. Parce que quand vous vous en prenez à la base militaire américaine, c'est beaucoup plus important que vous en prendre à une cellule, si je veux dire, israélienne, aussi importante qu'elle soit, et qu'elle soit garnie par les hauts officiers de sécurité israéliens. Quand vous en prenez à une base militaire américaine, sans la moindre réponse de ces derniers, c'est que vous avez déjà pris de l'ascendant sur l'ensemble des acteurs dans la région. C'est parce que vous vous en prenez au plus fort, pour ne pas dire au plus haut parmi eux. Et à partir de là, bien entendu, vous dotez des moyens pour dire, eh ben maintenant, tous ceux qui sont en dessous, je peux les atteindre. Et vous commencez par les Israéliens, mais il y en a bien d'autres. Et c'est la raison pour laquelle les menaces iraniennes contre tous ceux qui comploteraient contre son territoire, et ils ont averti d'ailleurs les Kurdes pour qu'ils ne soient pas, et notamment Barzani, le clan de Barzani, c'est les mafieux de Barzani, quand on les prévient en disant « Vous n'avez pas intérêt à ce que ce territoire que vous considérez comme autonome soit une source de menace pour notre territoire », le message s'adresse à l'ensemble je dirais, des acteurs qui pourrait commencer ou démarrer de ce territoire-là, mais en réalité, ça s'adresse à l'ensemble des acteurs et en particulier les entités sionistes. Parce que c'est l'entité sioniste qui a été visée à travers la première attaque, mais ça peut viser d'autres acteurs. Et bien entendu, ils ne réagiront pas plus que les Américains par rapport à toute riposte. Et les Israéliens aujourd'hui le savent. Parce qu'un État qui, dont les responsables politiques, si j'ose dire, se lèvent tous les matins pour dire « nous avons des menaces existentielles », ce n'est pas courant. Un État normal ne peut pas dire cela. Vous imaginez que la France se lève le matin en disant « nous avons une menace existentielle ». C'est juste pas possible. Mais un État tel que l'entité sioniste, c'est un État, comme l'a rappelé le professeur Dortiguet, est un État artificiel, mais au-delà du caractère artificiel, ce n'est pas un conglomérat, si j'ose dire, de citoyens qui appartiennent à une même nation, puisque cette nation n'existe pas. Ce qui existe, c'est un habitat commun, c'est une sorte de copropriété où tout le monde essaye de se servir. Mais en réalité, il n'y a rien qui lie cette population, parce que c'est des parts ajoutées d'une culture différente, d'un environnement différent, et aujourd'hui, très peu sont prêts à mourir pour cette entité. Alors que le premier ciment d'une nation, c'est d'accepter de mourir pour cette nation. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une volonté de la part de beaucoup d'Israéliens, c'est en cas de menace, c'est de quitter ce territoire. Et le dernier exemple qui a eu lieu, c'est quand la population arabe de 48, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Palestiniens de l'intérieur, se sont révoltés. Il y a des villes israéliennes, moi j'appelle des villes palestiniennes, se sont vidées de leur population israéliennes parce qu'ils ont eu peur, ce qui prouve qu'ils ne sont pas prêts à se battre pour leur territoire. Et les Palestiniens ont eu le mot le plus fort et ont eu la puissance la plus forte pour, si j'ose dire, faire disparaître cette présence. C'est-à-dire, si la bataille devait prendre une intensité beaucoup plus importante, évidemment, les choses auraient encore une autre configuration et, bien entendu, la menace existentielle apparaîtra comme une réalité et pas simplement comme une supposition.
Monsieur Dortiguet, en fait, et Maître Chami Essink, voilà, il s'agissait d'un message adressé à un ensemble des acteurs, un message adressé à la fois au régime israélien, également à ces régimes qui ont normalisé avec l'entité israélienne. Il est également, naturellement, question des États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Dortiguet?
Un message, monsieur Merosin, qui est un message en premier, en tout réaliste, c'est-à-dire qui montre ce qu'il y a d'artificiel dans les accords que certains dirigeants arabes, par exemple, que ce soit en Afrique du Nord ou en Orient, veulent conclure avec les Israéliens. Ça, c'est un premier point. Et c'est également, disons, aussi un message qui est réaliste dans la mesure où il dit que tout ce que les Palestiniens, tout ce que les États arabes peuvent entreprendre pour aider l'affaire se fonde, j'entends la lutte, se fonde sur une réalité. C'est le reste qui est artificiel. C'est la paix, soi-disant, avec l'entité sioniste, qui est une illusion. Je crois que ce n'est pas du tout utopique. Je crois que un des mérites de M. Nasrallah a toujours été de parler de façon, justement, je dirais, non pas vraie seulement, mais réelle. Objectif. Et je crois que c'est en ce sens qu'il a, qu'il aura une influence non seulement en Orient, mais également aussi en Europe, car en Europe, nous subissons également cet état-là. Nous souffrons même de cette situation.
Maître Chami, M. Dortiguet dit que voilà, il s'agit d'un message réaliste, réel. Autrement dit, si j'ai bien suivi M. Dortiguet, il va en fait dire que voilà, si Seyyed Hassan Nasrallah adresse un tel message, il sait parfaitement que voilà, que la résistance palestinienne, l'axe de l'espoir, selon vous, l'axe de la résistance, a les moyens de la réalisation, si vous voulez, de cet objectif.
Absolument. Absolument. J'ai envie de vous dire, la dernière fois, le dernier incident, c'était il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, me semble-t-il, il y a une quinzaine de jours, quand il y a eu cette tentative de si j'ose dire, de souiller l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa. Et la menace palestinienne a été claire, il y a eu un lancement d'un ou deux missiles. Et les Israéliens ont voulu, soi-disant, riposter, ils ont bombardé un terrain vague. Mais le lendemain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert les vannes à la société palestinienne en disant on ouvre les passages et bien entendu on facilite le passage des travailleurs. Alors que cet encerclement imposé par les Israéliens a toujours été dénoncé par les Palestiniens. Quand, jusqu'à maintenant, les Israéliens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient tout simplement encore plus de pression. Aujourd'hui, ils sont obligés de lâcher la pression en croyant que l'économie allait faire baisser la tension. Mais en réalité, non, parce que cette intensité est beaucoup plus profonde que la question économique. Aujourd'hui, c'est encore une fois une question d'existence, parce que ce territoire devra retrouver, si j'ose dire, son sens naturel, où il y a un seul peuple. C'est le peuple palestinien qui se trouve sur son territoire, avec le retour de ce qu'on appelle les réfugiés, c'est-à-dire ceux qui ont dû quitter par l'exode vers les autres pays arabes, mais également cette espèce d'osmose entre l'ensemble des composants de cette population palestinienne. Et c'est ça le retour à la normalité. Et tout ce qui se fait depuis la naissance de l'État sioniste, de l'entité sioniste jusqu'à maintenant, c'est quoi? C'est tout ce qui est contre la nature, c'est-à-dire imposé par la force, par la transplantation, par le déracinement d'une population et la transplantation d'une autre population qui venait d'Europe, d'Afrique, des États-Unis ou de je ne sais où, pour remplacer la population déracinée, c'est quelque chose qui est contre la nature. Et vous pouvez tout faire, bien entendu, si ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, les Palestiniens et leurs alliés se sont dotés des moyens pour justement faire en sorte que le sens de l'histoire reprenne son sens réel et reprennent le dessus par rapport à tout ce qui a été fait pour malmener la population et ce territoire.
Merci infiniment, maître André Chamy, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Alsace. Mes vifs remerciements vont également à vous, monsieur Pierre Dortiguier, analyste politique et spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi au téléphone pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, à très bientôt.
L'idéologie et la pratique des courants takfiristes. Les Chebabs revendiquent l'attaque de la base militaire de l'Union africaine en Somalie. Une attaque a visé mardi dernier une base militaire de la force de maintien de la paix de l'Union africaine près du village de Sil Baraf en Somalie, faisant plusieurs victimes. Les Chebabs, liés à Al-Qaïda, ont revendiqué l'attaque. Des Chebabs lourdement armés ont attaqué mardi 3 mai, avant l'aube, une base militaire de la force de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie, rapporte un commandant militaire local et plusieurs témoins. La base abrite des soldats burundais de la mission africaine de transition en Somalie, ATMIS, près du village de Sil Baraf, à 160 km au nord-est de Mogadiscio. Il y a eu de violents combats et des victimes des deux côtés, mais nous n'avons pas davantage de détails jusqu'à présent, a déclaré à l'agence France Presse le commandant militaire local interrogé par téléphone. Ils ont lancé l'attaque avec l'explosion d'une voiture avant un échange de tirs nourri, a-t-il ajouté. Un responsable militaire burundais a de son côté indiqué à l'agence France Presse qu'une trentaine de soldats ont été tués et 22 autres blessés et une douzaine d'autres sont portés disparus. Aucune confirmation de ce bilan n'était disponible dans l'immédiat auprès des responsables somaliens ou de l'Union africaine. Il y a eu de fortes explosions et des échanges d'armes automatiques. Des soldats burundais ont quitté la base pour entrer dans le village avant que des hélicoptères ne viennent apporter un soutien aérien. Le gouvernement somalien a déclaré qu'il condamnait, dans les termes les plus forts, l'attaque odieuse visant l'ATMIS et a appelé la communauté internationale à faire davantage pour soutenir les forces somaliennes et l'ATMIS afin de combattre efficacement le terrorisme. Le président de la Commission de l'Union africaine a déclaré sur Twitter qu'il s'était entretenu avec le président du Burundi pour lui présenter ses respects pour le sacrifice des soldats de la paix de ce pays qui ont perdu la vie. Les Chebabs, liés à Al-Qaïda et qui mènent une insurrection contre l'État somalien depuis plus de 10 ans, ont revendiqué l'attaque dans un communiqué. Ils ont affirmé avoir pris le contrôle de la base et avoir tué 173 soldats de l'Union africaine. Ils ont aussi diffusé une vidéo montrant des corps semblant être ceux de soldats, selon l'ONG américaine Site Intelligence. Le bilan donné et la vidéo n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante. Les forces de l'ATMIS, dont les effectifs représentent près de 20 000 militaires, policiers et civils issus de pays africains, a formellement remplacé la force de maintien de la paix africaine en Somalie, avec un mandat prolongé fin mars par le Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'à la fin de 2024 pour stabiliser le pays face à l'insurrection takfiriste Chebab. La force de maintien de la paix africaine a chassé les Chebabs des principales villes du pays, dont la capitale Mogadiscio en 2011, permettant l'installation d'un gouvernement et d'institutions fédérales, ainsi que la tenue de 2 cycles d'élections en 2012 et en 2017, et l'organisation d'un 3e qui devrait s'achever dans les prochaines semaines. Mais ces derniers mois, les Chebabs ont intensifié leurs attaques dans le pays, revendiquant notamment 2 grandes attaques le 24 mars. L'attaque de mardi intervient moins d'une semaine après la désignation au Parlement des présidents des 2 chambres, une étape clé ouvrant la voie à l'élection du président de la Somalie. Les partenaires internationaux ont fait part de leurs inquiétudes au sujet des délais dans le processus électoral qui, selon eux, distrait le gouvernement du combat contre les Chebabs ou encore des risques de famine dans le pays. Au Mali, plusieurs soldats ont été tués dans 3 attaques revendiquées par Al-Qaïda. L'armée malienne a annoncé dimanche dernier la mort de 6 soldats dans 3 attaques simultanées de groupes terroristes contre des camps militaires dans le centre du Mali. Les assauts, qui ont également fait 20 de blessés, ont été revendiqués par un groupe lié à Al-Qaïda. L'armée malienne a annoncé dimanche 24 avril la mort de 6 soldats dans 3 attaques simultanées de groupes terroristes ayant utilisé des véhicules bourrés d'explosifs contre 3 camps militaires dans le centre du Mali, des assauts revendiqués par un groupe lié à Al-Qaïda. Ces attaques ont fait 6 morts et 20 blessés dans les 3 camps par des groupes armés terroristes qui ont utilisé des véhicules kamikazes bourrés d'explosifs, a affirmé l'armée malienne dans un communiqué. Ils ont été revendiqués par la Katiba du Massina du prédicateur Paul Amadou Koufa dans un message audio parvenu à l'agence France Presse. Plongé depuis 2012 dans une crise sécuritaire profonde que le déploiement de forces étrangères n'a pas permis de régler, le Mali a connu deux coups d'État militaires depuis août 2020. Parti du nord du pays, les violences takfiristes se sont étendues vers le centre et le sud avant que le conflit ne se complique avec l'apparition de milices communautaires et de bandes criminelles. Le conflit a fait des milliers de morts, civils et combattants, et le centre du Mali est actuellement l'un des principaux foyers de la crise sahélienne. Les militaires au pouvoir depuis 2020 se sont rapprochés de Moscou en même temps qu'ils se détournent de la France, engagée militairement dans le pays contre les takfiristes depuis 2013.